France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, je suis très heureux d'accueillir Jean-Marie Perrier, le copain et le photographe de tous les chanteurs et rockeurs des années 60, mais aussi le fils de François Perrier et l'arrière-petit-fils de Réjeanne, qui aime raconter sa vie d'enfant gâté et néanmoins lucide. François Perrier à ce micro dans quelques minutes avec les voix de Frank Sinatra, Françoise Hardy, Bob Dylan et les autres. En fin d'émission, Jean-Christophe Keck évoquera le regretté et si subtil Emedonia. Mais pour commencer, en cette semaine très politique de Nuit debout et de loi travail, n'oubliez pas de choisir votre parti.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Oui,
qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis.
C'est le parti.
En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie s'est partie. Et compris qu'il faut être en partie répartie. Tous en un seul parti. Notre parti.
Notre parti. Parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut.
De tous ceux qui ont le plus haut. Notre parti
des idéaux.
C'est le marteau de
et
tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Notre mieux grévin Dieu de
c'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Pour que ce qui ne va pas aille encore mieux.
C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau.
Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire.
La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la saignée,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti.
Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Nos buts sont déjà fixés.
Réconcilier les yeux brouillés.
Faire que le veau d'or puisse se coucher.
Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler.
Amnistier les portes condamnées,
à l'exception des porte-manteaux.
Tiens, ça rime pas.
Je sais. C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an.
Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus.
Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich.
Voilà quel est notre programme. Voilà le programme.
On est le programme.
On est le programme.
On est le programme.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, notre parti.
Oui, non,
c'est oui. Bonne chasse, bonne vie. Et voici ce qu'est notre parti. Oui.
Voilà, ça c'est mon parti à moi et c'est mon boléro à moi avec des paroles revues par Pierre Dac et Francis Blanche interprétées par les quatre barbus. Vous le savez, on va beaucoup bolérer sur France Musique cette semaine et notamment mardi à l'occasion de la journée spéciale Boléro de Ravel de 7h à minuit. Et puis tiens, avant de retrouver Jean-Marie Perrier, mon invité, un petit trésor que j'ai ressorti cette semaine sur une chanteuse réaliste assez peu connue, somme toute aujourd'hui, Emma Liebel, grande artiste de musical des années 20. Elle était née à Pau et elle a été vraiment un personnage central. C'est elle, par exemple, qui a créé la chanson des Goélands bien avant Damia. Elle a énormément enregistré, on l'appelait la reine du phono. Elle a une présence, une gouaille irrésistible. Alors j'ai choisi pour vous cette Java qui évoque justement les plaisirs du samedi soir dans les années d'avant-guerre.
Le samedi soir, en quittant leur turban, il y a des gens chez qui s'en vont prendre un bain, ou l'apéro, ou dans le métro, la montre en or d'un monsieur comme il faut. Il y en a qui prennent une loge pour l'opéra, d'autres pour leur rue, c'est pas si matin. Bref, à grand rang, selon son rang, quelque chose de chouette de nénette à mille rangs. Et même l'autre jour, il y a un de mes bons poteaux qui a pris son vouloir des totos. Et ouais, tous les soirs, elle se relève, c'est qu'un saut. Il prend vivement la petite rue qui est derrière, le troisième pan du boulevard Sébastien. Il y a un dancing, je vous jure qu'elle fait vert. La popote, les tambours sont pas de mise, les costauds y cassent en bras de chemise. On lisse un bol de pinaire et l'on va comme une réussite version autour de Java. Il y a des ménages dont l'accord est parfait. Le monsieur veut, madame, je suis bluffé. C'est le paradis, comme je vous le dis. Jusqu'au moment où ça chauffe au bourbis. Alors c'est drôle comme ça sent tout autour. Il n'y a plus de ma crotte, ma poupée, mon petit loup. On voit valser dans l'escalier la soupière, le buffet et le saladier. Moi si toutefois le petit boulot pétard, la colère me prend et d'ardard. Je vois tous les soirs, elle se reste les grassos. Et je prends vivement la petite rue qui est derrière le troisième banc du boulevard des Bastos. Viens dans un signe, je vous jure qu'est pépère. La propre, les tangos ne sont pas mises. Les costauds, ils cassent en bras de chemise. On lit un bol de pinaire et l'on va comme une réussite vers son retour de Java. Oh, tout paraît voir au cas qu'il m'arriverait de quitter la terre, ce serait avec regret. Mais tout ce que je veux, c'est que tous ceux qui me suivront ne gueulent pas avec un bleu. C'est déjà pas polichant de truc-là. Si tout le monde y fait les gueules avec ça, je connais mon cœur au bout d'une heure. J'en aurais marre des enfants et des fleurs. Pour m'embêter, si réellement l'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas besoin de moi. Tous les soirs, elle se relève des grassos. Et je prends vivement la petite rue qui est derrière le troisième pont du boulevard Sébastien. Viens dans le signe, je vous jure qu'il est pépère. La pauvreté, le tango, sont pas de mise. Les costauds, ils cachent en bras de chemise. On lit un vol de pilaires et l'on va comme une ravie facile vers son tour de Java.
Mon tour de Java par Emma Liebel, c'était un disque 80 tours de mai 1923. Ein Gesundet, c'est le nom de cette polka rapide de Joseph Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Laurine Mazel.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et sans plus attendre, on retrouve mon invité que chacun connaît comme le photographe des pop stars et de Salut les copains. Mais c'est aussi un homme passionnant, né dans une famille extraordinaire dont il aime bien parler. Et puis c'est un passionné de musique depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, il est retiré dans l'Aveyron, mais il reste heureusement bien présent, spécialement pour les auditeurs de France Musique pour lesquels il est venu à Paris. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Perrier.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. Friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.
Bonjour Jean-Marie Perrier.
Bonjour.
On a fait, il n'y a pas très longtemps, sur France Musique, toute une journée Sinatra. Alors, je cherchais des personnes pour venir nous en parler. Il y a eu Lynn Renault et quelques autres. En fait, j'ai pas pensé, j'aurais dû vous demander de venir. Hein.
Ah bah, j'ai tété Sinatra pendant toute mon enfance, moi et ma jeunesse.
Oui, j'ai même vu dans votre livre de souvenirs, Enfant gâté, dont on va reparler, que vous vous êtes même fait très jeune offrir pour Noël des disques de Sinatra.
Ah oui, puis j'étais tellement cinglé d'Amérique que quand on me les offrait, j'ouvrais avec l'ongle la pochette et je plongeais mon nez dedans pour respirer l'air de là-bas.
Ah oui.
J'étais bien allumé. Non mais Sinatra, il a inventé tellement de choses.
Oui.
Vous vous souvenez, il a quand même inventé le disque à thème.
Oui.
Only for the Lonely. Le premier disque qui existe dans lequel il n'y a que des chansons tristes. Non,
et
c'était formidable.
Il y a aussi une souplesse par rapport au rythme qui est évidemment pas le propre des chanteurs
c'est le premier blanc
de son époque.
Ouais. Ouais, c'est le premier blanc à chanter en arrière du temps. Le blanc, en général, chante sur le temps.
Ouais.
Lui, il chante en arrière du temps. La plus grande dans le genre étant Shirley Horn. Alors elle commence la phrase, vous pouvez aller faire votre marché et revenir.
Avant
le temps,
arrive. Vous étiez tombé comment sur Sinatra? Parce que vous, c'est plutôt la génération d'après, votre génération musicale. Mais
ben non, en 56, non.
Oui, d'accord.
En,
mais
en 55, 54, je suis dans Sinatra à fond.
Vous moi, êtes c'était un petit jeune homme, mais vous le trouvez comment, Sinatra? C'est pas votre famille, c'est pas votre père, c'est pas vos...
Ah, c'est en tout cas pas mon père, parce que mon père, François Perrier, ne comprenait pas la musique.
Voilà,
c'était on va y
revenir
abstraction.
Totalement.
C'était une abstraction. Pour lui, la musique, c'était la musique des mots. Voilà, ça oui. mais la musique, ils ne comprenaient pas. Donc, moi, j'étais un fou de musique. Je faisais du piano, je ne pensais qu'à ça. Comment est-ce que j'ai connu Sinatra? Je ne sais pas, je ne me souviens plus.
En tout cas, voilà, un des personnages importants de votre vie musicale, parce que vous l'avez dit, vous faisiez beaucoup de piano quand vous étiez très jeune. Après, vous avez arrêté pour des raisons sur lesquelles on viendra peut-être. Mais la musique a été, au fond, un fil conducteur dans votre vie très, très important. Parce qu'après, quand vous êtes devenu photographe, vous avez photographié des musiciens, oui, de jazz, etc. Est-ce que c'est les personnages, les musiciens qui vous ont passionné ou c'est la musique elle-même qui a continué à vous pousser?
Ah non, 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 moi c'était la musique. Dès l'âge de 5 ans, je composais, j'ai appris le solfège, je jouais du classique, du jazz. Non, 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 j'étais musicien, moi, c'était ça ma vie.
Oui, mais quand vous avez finalement évolué vers un autre métier, la musique a continué à être aussi présente dans votre vie?
Oui, mais ça c'est parce que la vie a un sens de l'humour extraordinaire. Ouais. Parce que bon, lorsque je ne sais plus quoi faire, parce que j'arrête de faire de la musique à, ouais, l'âge de 16 ans, ouais, pour ressembler à mon père, François Perrier, c'est une vraie décision de ma part. Je voulais ressembler à mon père qui m'avait adopté et pas à mon géniteur, bon, qui était très doué, mais qui, voilà, était aussi musicien, donc ça m'ennuyait beaucoup.
Henri Bref, Salvador, oui.
Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que quand un journaliste de Paris Match dit à mon père sur le tournage de Fellini à Rome, oui, mon père m'avait emmené sur ce tournage, puisque je ne faisais rien, donc il ne savait pas quoi faire de moi, il demandait à tout le monde, mais qu'est-ce que je vais faire de ce grand con? Et un type charmant qui s'appelait Beno Graziani, qui lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match.
Voilà, du moins dans un certain milieu.
Oui, oui, ah bah, écoutez, attention, on est entre soi quand même. Et tout à coup, le type me dit, tu vas être photographe? Je dis, oui, bon, moi, de toute façon, on m'a dit plombier, c'était pareil, de toute façon, je ne faisais plus de musique. Bon, donc, je pouvais faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait n'importe quoi toute ma vie, grâce à ça, finalement. Et donc, il me présente, vous rendez compte, la chance, il me présente Daniel Filipacchi, qui, en 1956, est l'homme qui apporte avec Franck Thénault le jazz aux,
voilà,
Français.
Voilà. Donc, la musique vous rattrape de cette façon-là.
Ben, je ferme mon piano et à cette seconde-là, je passe 25 ans de ma vie à 10 cm des plus grands musiciens du monde.
Voilà, donc la musique n'a cessé d'être présente, elle l'est encore un peu aujourd'hui. Vous écoutez des choses, vous touchez à votre piano si vous en avez encore?
Ah, le piano,
un.
J'ai jamais retouché.
Ouais, jamais retouché.
Depuis l'âge de 56.
À cette décision.
Ah oui, oui. J'aurais l'impression de trahir mon père. C'est idiot. Mais c'est comme ça.
Vous en écoutez?
J'en écoute, mais moins qu'avant. Avant, je n'en écoutais, mais c'était monstrueux. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je ne suis pas encore sourd. Tellement j'écoutais ça, 24 heures sur 24, ça n'arrêtait, ouais, pas. Aujourd'hui, c'est dans la voiture. J'en écoute moins qu'avant.
Il y a quelque chose aussi, depuis maintenant quelques années, qui vous occupe bien, Jean-Marie Perrier, bah, c'est justement de revenir sur cette histoire assez extraordinaire. D'ailleurs, il faut dire qui est la vôtre. Ça a commencé avec ce livre Enfant gâté. Tout récemment, c'était même au théâtre. Hein, vous êtes monté sur les planches. Vous avez, ouais, ce, oui, besoin de... Ce désir de vous raconter, de raconter ceux qui ont compté pour vous.
Oui, ça c'est un vrai plaisir. Mais c'est-à-dire que bon, le spectacle, c'est parce que ça me permet de parler enfin comme j'ai envie d'en parler de tous ces jeunes gens que j'ai rencontrés dans les années 60, ouais, qui étaient à l'époque des mômes qui allaient devenir des stars. Parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé. Toujours on me dit, vous êtes le photographe des stars. Ouais. Non, pas du tout. Moi, je resterai comme le photographe des gens qui vont devenir des stars, parce que c'est là que c'est intéressant. Une fois que c'est des stars, c'est toujours pareil. Il y a plein de gens autour, et des conseillers, tout ça, des crétins qui parlent à leur montre. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelqu'un dire, oh là là, il y a un talent fou. Ça, c'est passionnant. Alors voilà, je l'ai fait pourquoi? Parce que ça fait 25 ans qu'on me parle de ça tous les jours et qu'on me pose sur les mêmes questions.
Voilà, et sur scène, c'est vous qui faites les questions et les réponses.
Et oui, il y a un grand écran derrière moi, je balance 350 photos et j'ai un ingénieur du son qui met les musiques. Donc c'est un vrai spectacle. Ça, j'adore.
Bon, alors, je vais essayer de pas vous poser exactement les mêmes questions que tout le monde. Ça va pas être facile, mais là, je suis sûr que la musique que je vais vous passer pour commencer, ouais, c'est pas une des musiques qu'on passe le plus souvent quand on vous interviewe. On dira tout de suite après pourquoi.
Vous avez l'air étonné.
Non, je suis heureux. Je vois tout à coup, c'est différent. Au fond, vous êtes très gentil.
Chut, faut pas le dire.
Pourquoi?
Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux.
Vous donnez rudement bien le change.
Ben, je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se proposer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans la dignité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiquineuse. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma que les petits centres, être soi-même, c'est interdit. Pour se donner de l'importance, il faut bluffer sa réussite. Sur mon visage, je me propose un maquillage du rémoqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon corps. Que pour l'apparence, qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit.
Et là, on est en 1937, trois ans avant votre naissance,
oui.
Jean-Marie Perrier. C'est Yvonne Printemps, bien sûr, on l'a reconnu. Yvonne Printemps, que vous avez fort bien connue, en tout cas croisée un certain nombre de fois au théâtre de la Michaudière, dont elle était, avec votre père François Perrier, la responsable, la directrice.
C'est-à-dire qu'en fait, eux, Freinet et elle, étaient les patrons du théâtre et mon père en était le directeur.
Voilà, c'est ça.
Donc en fait, il avait un rapport, de toute façon, d'estime vis-à-vis de Freinet et Printemps.
Mais c'est eux qui l'avaient choisi.
Mais c'est eux qui l'avaient choisi et oui. Il était quand même en quelque sorte leur employé de luxe, mais quand même. Bon.
Ah oui, il y avait une espèce de distance hiérarchique
bien
quand
sûr.
Même.
Bon, en même temps, il remplissait le théâtre tout le temps, hein, parce que c'est quand même incroyable de penser que mon père, tous les soirs de sa vie, a joué des pièces et s'était bourré tout le temps.
Voilà.
Sauf une, sauf Johnny Cœur de Romain Gary. C'est la seule pièce qui n'est pas marché du tout. Sans ça, il a
contrairement
toujours
à
fait Bobos
plein. Et d'autres
oh là là.
Succès monstrueux.
Mais alors Yvonne Printemps, ce qui était magnifique, c'était surtout...
Elle était toujours là, sur place.
Oui, parce que c'était sa passion, le théâtre. Mais je me souviens que le spectacle que j'adorais regarder quand j'étais petit, c'était, pendant que la pièce se jouait,
ouais.
Pendant le premier acte, il y avait... Yvonne Printemps au bar, voilà. Qui ne buvait pas que de l'eau.
À la fin de sa vie, elle buvait même beaucoup, je crois.
Et alors derrière sa voilette, là, elle était extraordinaire parce que le travail de Pierre Freinet était de faire en sorte de la retirer, de la faire sortir du bar avant l'entracte, où les gens qui avaient payé leur place ne méritaient pas de se faire insulter par Yvonne Printemps. Il a dit, vous ne comprenez rien au théâtre. Ah, bon. Donc tout le problème était de la faire sortir avant. C'était extraordinaire.
Votre père l'aimait bien, l'admirait.
Ah oui, bien sûr. Bon, c'était un personnage sublime.
Alors, un personnage sublime, un des personnages sublimes que vous avez croisé dans cette enfance, hein, donc avec votre père François Perrier, sans votre mère, on le dira après, qui elle était partie depuis longtemps, mais avec, par contre, celle qui avait épousé votre père par la suite, qui a disparu il y a peu de temps d'ailleurs.
Marie Demps, oui.
Marie Demps.
Oui, mais enfin, c'est surtout. En fait, moi, j'ai surtout les souvenirs de la suivante.
Ah oui.
En réalité, Colette, qui elle est toujours là d'ailleurs. Non, mais ce qui était formidable, c'est que cette maison de Neuilly.
Alors, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, tout le monde est passé là.
Oui, et puis tous les acteurs français. Alors, Pierre Brasseur et Sacha Guitry.
Sacha Guitry n'était pas très loin non plus. Il y a une anecdote dans votre livre.
Non, Sacha Guitry tournait un film. Pas très très loin, je me souviens.
Voilà.
C'est un film d'époque. Je crois que c'était en remontant les Champs-Élysées.
Ah voilà, et tous les acteurs venaient dans leur costume d'époque.
Ouais,
chez
alors
vous.
C'était merveilleux parce que bon, j'étais dans mon jardin, j'arrivais, il y avait Marie-Antoinette qui parlait avec Louis XIV. C'était très amusant. Et je me souviens d'ailleurs que le lendemain de ce jour, je suis allé en classe d'histoire et le professeur a dit aujourd'hui nous allons faire un cours sur Napoléon. Et moi, innocemment, je me suis levé en disant ah, mais je le connais, il était chez moi dans mon jardin hier.
Ah oui, c'est ça, le professeur.
Bonnet d'âne, comme d'habitude.
Bonnet d'âne. Vous n'étiez pas un très bon élève. Hein.
Ah, je n'ai jamais compris ce que je faisais là. Alors là,
oui.
De quel droit ce type se permettait de me dire des choses. Je ne faisais absolument rien. Je rêvassais à de la musique tout le temps.
Mais vous aviez le sentiment de vivre dans un monde à part, très différent de celui de la plupart de vos petits camarades.
Non, ça je m'en rendrais compte vraiment le jour où je rencontrerais par Philippe Aki toutes ces jeunes gens qui vont démarrer dans les années 60.
Oui, qui eux venaient de familles très simples.
Eux partent de rien. Oui, oui. Et c'est ça qui me touchait chez eux aussi. Oui. Et peut-être aussi pour ça que j'avais des rapports aussi privilégiés avec eux, parce que j'en savais beaucoup plus sur leur avenir, sur ce qui les attendait.
Oui, vous aviez
parce que
grandi
je connaissais
avec.
Les coulisses de leur vie à venir, moi.
Vous disiez tout à l'heure que, alors François Perrier, pour lequel vous avez un amour, une admiration qui ne s'est jamais démentie, qui est au cœur de beaucoup des récits que vous faites aujourd'hui.
Il m'arrive souvent de même d'avoir envie d'écrire un livre uniquement pour parler de lui.
Uniquement pour parler de lui. En même temps, donc vous nous avez dit il y a un instant, c'était un sourd musical.
Ah oui, ça il connaît pas. La Marseillaise, une fois, je l'ai vu un peu ému, mais sans ça, non, c'est pas ça, c'était pas son truc. Et alors il me regardait comme un mouton noir, si j'ose dire, parce que j'étais là, je jouais du piano tout le temps. Ouais. Alors évidemment, bon, c'était très amusant parce que moi, je pouvais arriver la nuit comme s'il y avait des dîners. Je descendais en pyjama vers 10, 11 ans. J'arrivais dans le salon. Oh, comme il est mignon. Je me mettais au piano, je faisais un tabac à chaque fois. Hein. Ah oui, c'était formidable comme situation.
Vous savez qu'il a enregistré quand même, alors c'est pas une chose formidable, mais ça peut être amusant d'en écouter un petit bout, une chanson.
Mon père.
Enfin, il ne fait que parler.
Ah,
et
oui,
il parle justement avec quelqu'un qui est son fils et il explique qu'il ne comprend rien à la musique.
Oh, ça, je connais pas ça.
Pierre Jolivet. Et François Perrier, le tube.
Un tube, ce qu'il nous faudrait, c'est un tube qui serait dans le cou. Un tube, ce qu'il nous faudrait, c'est un tube qu'on chanterait partout.
Oui, Laurent, je comprends bien, c'est une très bonne idée. Moi, je ne demanderais pas mieux que de faire un tube. Mais tu sais très bien que je ne sais pas chanter. Sur ce plan-là, pour nous, on ne peut vraiment pas dire tel père, tel fils. Je veux bien lire n'importe quel texte, vraiment n'importe lequel, mais pas le chanter. Tiens, si tu veux, le bottin. Mais oui, pourquoi pas le bottin? D'ailleurs, en y réfléchissant bien, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, le bottin. Tout le monde connaît, c'est simple, ça n'a jamais été fait. Et en plus, tu ne le sais peut-être pas, mais depuis qu'un critique a dit un jour en parlant d'un comédien, il a tellement de talent qu'on l'écouterait même s'il nous récitait le bottin, pour les gens de théâtre, le bottin est devenu une espèce de bâton de maréchal. Alors après tout, c'est peut-être une expérience à tenter, tu ne crois pas?
Un tube, ce qu'il nous faudrait, c'est un tube.
Alors, vous connaissiez François
non,
Perrier?
Non, je ne connaissais
ça
pas.
Ça date de 1974. Les paroles sont de notre chère Françoise Dorin et musique de Guy Bontempelli, production Marouani. Pierre Jolivet, qui faisait le petit chanteur, le fils qui aime la musique, et le père dit par François Perrier qui ne comprend rien à la musique.
Mais c'est drôle parce qu'il dit exactement la vérité, là. C'est exactement ça. Bon, il n'avait pas honte. Hein.
Voilà, j'aurais pu passer. Il y a quand même un autre document avec musique, si j'ose dire, de François Perrier. Ce sont les aventures de Babar. Mais il ne fait que parler, là encore, mais il y a une très jolie musique autour de lui. Alors, parlons un petit peu quand même de la famille de votre mère, cette mère qui est partie très très vite quand vous étiez tout petit. On n'a pas le sentiment que vous lui en ayez jamais voulu de cette absence.
Si, beaucoup en fait.
Ah bon?
Moi aussi.
Alors vous atténuez le trait peut-être dans vos souvenirs.
Parce que j'aime pas les livres.
Parce que vous aimez le personnage qu'elle était malgré tout.
Oui, mais j'aime pas les livres qui se vengent. Donc si vous voulez, je ne raconte jamais la face noire parce que j'aime pas ça, ça ne se fait pas je trouve. Mais bien sûr que quand elle est partie, moi j'avais 7 ans, mon frère 5 et ma sœur 3.
Ouais.
Bon, on s'est retrouvés dans une très très grande maison vide avec le jardin et mon père effondré.
Effondré dans un premier temps,
et,
évidemment.
Et c'est là où Jouvet, qui venait souvent nous voir, l'a regardé comme ça, comme il le voyait effondré. Il a dit, mon petit François, un jour tu vas ouvrir la fenêtre et tu diras, tiens, mais il y a des arbres. Ce jour-là, tu seras sauvé.
C'est beau.
C'est merveilleux.
En tout cas, ce qu'on découvre dans votre récit, c'est que votre mère a une histoire elle-même extraordinaire,
oui.
Puisqu'elle est la petite fille de Réjeanne,
oui.
La plus grande actrice de la Belle Époque avec Sarah Bernhardt.
Oui, absolument. Sûrement, son enfance à elle n'a pas dû être facile non plus.
Ouais.
Parce que bon, je ne pense pas que Réjeanne était une possédée de la maternité. Hein.
Donc, c'était sa carrière avant tout, comme beaucoup
bah oui,
de comédiens.
Oui, c'est extraordinaire. Avec son mari, ils ont construit des théâtres. Le théâtre de Paris, par exemple, qui a été construit pour Réjeanne. Et quand on y va, il y a encore des portraits d'elle sur les murs. C'est extraordinaire. Donc en fait, je pense que ma mère a eu une enfance assez difficile.
Ah, avec un père incroyable aussi. Alors, personnage proustien, qui a connu Proust d'ailleurs.
Donc, Proust disait, Quand il attendait Porel, il disait à la femme de ménage « Fermez les fenêtres de peur que Porel ne s'envole ».
C'est très joli. Jacques Porel, votre grand-père, donc fils de Réjeanne. D'ailleurs, c'est le nom d'un des livres qu'il a écrit.
Ah ben c'est la seule chose qu'il aura faite sa vie.
Voilà. Et que vous le décrivez voilà, comme un des derniers boulevardiers, personnage qui vit
c'était
pour
ça.
Vivre à Paris et
oui, mais il n'a jamais
jouir
travaillé.
De toutes les choses de agréables de
l'existence.
Vous ne
comprenez même pas ce que c'est d'ailleurs, travailler.
Vous ne comprenez pas.
Je me souviens très bien du jour où un de ses théâtres, un des théâtres de son père et de sa mère, était en bas des Champs-Élysées à droite, vous savez, là où c'est Dassault l'avait racheté pour en faire un cinéma.
Oui.
Cet endroit, avant, c'était un théâtre dans lequel mon grand-père donc a passé son enfance, comme moi, à la Michaudière, si vous voulez. Et un jour, dans les années 60, il y a la première de Laurence d'Arabie, le film de David Lean. Alors, je vois une queue de 1 kilomètre et tout à coup, je vois, descendant les Champs-Élysées, mon grand-père, 1m90, avec des costumes magnifiques datant d'il y a 30 ans, un peu élimés mais parfaits, qui se dirige évidemment vers cet endroit, parce que c'est chez lui pour lui. Bon. Donc je fonce à la caisse, je leur dis surtout, vous faites rien, laissez-le passer. Il rentre, et je ne sais pas si vous vous souvenez que dans Laurence d'Arabie, il y avait une intermission au milieu. Donc moi, je regarde dans un coin, il était debout, il ne se mêle pas à la plèbe, hein, il regarde le film, et au milieu, il ressort, il me croise, il me dit « J'ai très très bien connu Laurence, il n'était pas du tout comme ça.
» Pas mal non plus. Ainsi que sa liaison aussi avec Jeannie Holt.
Oh, c'était une merveille.
Grande femme du cinéma et du théâtre
oui,
également.
Une merveille, oui. Une merveille. Non, mais c'était un personnage unique, parce que vraiment d'un autre siècle, et qui a traversé tout ça. Il a fini d'ailleurs assez pauvre, mais il a vécu toute
oui,
sa
ça,
vie
oui.
De l'argent que lui envoyaient des concesses hongroises. Écoutez, il était tellement... Alors ça, je sais qu'on l'a dit maintenant de beaucoup de gens. Donc, par contre, c'est lui qui m'avait raconté que quand il arrivait à New York, les maris cachaient leurs femmes parce qu'on l'appelait Divan le Terrible. Alors, je sais qu'on l'a raconté à propos de quelqu'un d'autre, donc je ne saurais jamais la vérité.
Vous n'avez pas envie, parce que quand on lit vraiment cette première partie de votre livre sur cette famille, on se dit, tiens, il y aurait la matière vraiment peut-être d'un livre rien que là-dessus.
Oui, je vais le faire. Je vais le faire. C'est dans mes projets, absolument. Je vais faire un livre avec mon grand-père. Oui, oui.
Avec votre grand-père, oui, Jacques Porel, personnage parisien.
Qui a été le premier à Paris, en France, à avoir une voiture décapotable avec la radio, je vous signale, à la fin des années 30, début 40. Et ma mère m'a raconté qu'en plein été, elle traversait Paris avec son père, donc dans cette voiture décapotable américaine, en écoutant un opéra. Et puis à la fin, ils se rangent devant le Flore, ils attendent la fin de l'opéra, et ils sortent et tout le monde se lève et applaudit.
C'est beau, hein ? C'était du Wagner en plus. D'après ce que vous racontez, en tout cas. Encore une petite parenthèse musicale et biographique, puis après on va avancer parce que votre vie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres. Là, on n'en a encore qu'au tout début.
Coquette, oui, honnête, non.
Si prêche,
venant dans toute la ville de Bahia, on l'appelait.
Comment ? La belle Maria.
Chacun voulait la voir entre ses bras.
Ah, 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 ah. Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia.
Elle avait le teint comme du satin, la belle Maria.
Et tous les cœurs cabriolets, quand elle montrait ses mollets, couleur de café au lait. Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia.
Qui menait le bal au carnaval, c'était Maria. Et tous les garçons de là-bas, quand elle dansait la samba, frémissaient du haut en bas. Les tambourins l'électrisaient. Tam-tam disait, t'as bien raison de tam-tamuser.
Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia. Les hommes se battaient pour inviter la belle Maria.
Quand on l'avait trop embrassée, elle allait se confesser, et puis elle recommençait.
Thank you.
Bahia. Vous n'en doutez pas, le cinéma se l'approprie. Elle tourne à le scénario d'un grand impresario qui se trouvait à Rio. Mais un beau soir, elle est revenue dans la mélasse, la tête basse et les pieds nus. Aïe!
Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia.
Avec le dadé qui l'attendait, elle se maria. Et depuis ce jour,
il n'y a
pas de femme à
Bahia
plus fidèle
que Maria.
Maria de Bahia, l'orchestre de Ray Ventura en 1946, retour à Paris après des années en Amérique du Sud, et avec d'ailleurs dans l'orchestre un jeune guitariste et chanteur qui s'appelle Henri Salvador. Alors je ne vais pas trop vous embêter avec Salvador, Jean-Marie Perrier.
Non mais là, à l'époque de cette chanson, il ne sait pas que j'existe. Hein.
Il ne savait pas encore parce qu'il l'a appris plus tard.
Hein, après 1947.
Voilà, il a vécu quand même plusieurs mois avec votre mère et même.
Oui, non, mais c'est pour ça, si vous voulez, quand on me parle de lui comme mon père, non, c'est pas mon père, c'est François Perrier. Lui est un homme qui a eu la chance d'avoir une aventure avec ma mère.
Voilà, voilà. Et qui a appris des années plus tard que vous étiez son,
absolument,
son fils.
Alors au début, l'histoire est belle. D'ailleurs, l'histoire du livre que vous avez entre les mains, l'histoire. J'ai fait exprès de l'arrêter au moment où ça se gâte, parce que finalement, c'est une très très belle histoire.
Exactement.
Histoire
dans le livre, on se dit, mais formidable, bon, y a une certaine pudeur dans vos rapports, enfin, sauf quand il veut vous emmener voir un film porno.
Oui, mais ça, c'était un petit plein peu d'humour, en fait. Non, mais il a dit...
Mais il y a une poésie dans cette relation à distance,
bien
que
sûr,
vous cachez d'abord à François Perrier, et puis...
C'était très compliqué.
Il s'est très mal conduit après le livre, je
oui,
crois.
Oui, voilà. Bon, mais pas avec moi, avec mes enfants.
Avec vos enfants,
c'est pour ça que je parle plus. Bon, écoutez, paix à son âme.
Mais est-ce que vous admirez, malgré tout, ce qu'il y a une espèce quand même de... Jean-Marie Perrier, vous êtes le fils de François Perrier, est-ce qu'il y a quand même une certaine filiation par l'admiration musicale
avec
Henri Salvador?
En 56, quand on m'apprend que mon géniteur, c'est lui, et que je vais payer ma place pour aller le voir à l'Alhambra, et que je vois ça, oui, parce qu'à l'époque, il ne chante pas les clowneries comme après, attention.
C'est vrai.
Là, il fait du jazz, il y a 30 musiciens.
Il a écrit des merveilleuses chansons.
Ah, puis ça balance.
C'est un amoureux du jazz.
C'est extraordinaire.
Il amène la musique sud-américaine en France, peut-être avant les autres.
C'est extraordinaire ce qu'il fait, extraordinaire. Et en plus de ça, le problème, c'est que moi, je suis dans la salle et que je vois tout ce que j'avais rêvé de faire, c'était fini. La voix, c'était fait, impeccable, et je le voyais sur la scène.
Voilà. Donc, vous l'avez dit au début, c'est à cause de ça, d'une certaine façon, vous avez arrêté la musique. Hein,
oui, parce que j'ai décidé...
Pour ressembler à votre vrai père.
Voilà, j'ai décidé ce soir-là de ressembler à mon père. C'est certainement la décision la moins intelligente, mais la plus importante que j'ai prise de ma vie.
Mais après, vous avez été parfois un peu envieux devant vos amis musiciens qui, eux, chantaient, faisaient de la musique. Je vais vous dire, oh, qu'est-ce que je serais bien à leur place sur scène.
J'étais pas envieux, si vous voulez. Bon, et bien sûr, quand c'est McCartney ou Michel Berger, tout ça, le problème ne se pose pas. Ouais. Il y en a certains dont je tairais les noms, je me disais quand même, là, on pourrait faire mieux. Mais
je ferais mieux, en l'occurrence.
Mais c'était pas ça le sentiment, même pour ceux dont je n'aimais pas la musique. Ils faisaient de la musique, eux, et moi, j'en faisais pas. Donc, de toute façon, j'avais pour eux de l'estime. Ça, c'est absolument certain.
Alors, avant d'en venir à cette bande-là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la première période, si j'ose dire, c'est la période jazz.
Oui,
c'est Théno Filipacchi. Vous avez d'ailleurs même fait des émissions de radio avec eux.
Oui, j'étais très mauvais d'ailleurs.
Oui, c'est ce que vous dites.
Non, mais c'est la chance extraordinaire, c'est que je suis avec ce type hallucinant qui s'appelle Filipacchi, qui est intelligent, beau, drôle, provocateur, cinglé et complet, et qui, tout à coup, me donne toute liberté à 16 ans.
Voilà. Et là, vous allez rencontrer Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Miles Davis et tout le monde.
Dans la seconde, il me donne l'appareil, il me dit vas-y maintenant. J'ai 16 ans, vous vous rendez compte? J'en fais 11 physiquement en plus. Je trouve qu'il avait une imagination extraordinaire.
Et vous aimez bien Ella Fitzgerald d'ailleurs.
Ah oui, enfin, c'est surtout elle qui m'aimait bien.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est que là le problème, parce qu'évidemment, bon, moi j'étais quand même vierge comme le canal sous la Manche à l'époque. Hein. Donc si vous voulez, c'était pas évident.
Vous vous serrez contre elle dans sa
loge. Oui, elle était absolue. Non, mais elle a été adorable. Elle a été adorable, elle a compris. Elle a compris, j'étais absolument terrorisé.
Il y a aussi un moment où tous les grands photographes attendent Dizzy Gillespie à la descente d'un avion. Et puis vous, qui êtes le petit dernier, là, finalement, il vous aperçoit, il vous fait rentrer dans la voiture, il part avec vous.
Et oui, parce qu'en fait, il le connaissait de Paris, alors que les autres photographes fonctionnels ne le connaissaient pas.
Ouais.
Et moi, il m'emmène et il me dit, tirons-nous, ma femme est tellement bourrée qu'elle croit qu'on est arrivé à New York. Effectivement, je la vois en haut de Traviole, elle était bourrée comme un coin et on est parti. Et c'est là qu'on est allé direct à Jean-Lépin, qui m'a dit, on va se baigner. Je dis, prends ta trompette.
Voilà.
Et c'est comme ça que j'ai fait ma première couverture de Jazz Magazine avec Dizzy Gillespie.
Ce qui fait rêver aussi dans cette période dont vous parlez, entre Paris Match, Jazz Mag, etc., c'est qu'est-ce que c'était que la presse à l'époque, comme luxe, comme plaisir, comme porte ouverte à tout. C'était, aujourd'hui, on vit dans une presse qui est souvent à l'économique, soit à la presse écrite ou tous les médias. Ça n'a plus rien à voir avec la presse des années 60.
Non, mais la vraie différence, c'est pas la presse, c'est les patrons de presse. Prouveau, le dernier, c'est Philippe Aki, c'est des types qui avaient une dimension, une imagination que aucun directeur de journal aujourd'hui peut se permettre d'avoir.
Ouais. C'est parce qu'au fond, c'était un peu des danseuses pour eux aussi, leurs journaux.
Oui, et puis ils avaient compris qu'il fallait en faire des enfants gâtés, les journalistes, pour qu'ils obtiennent des choses. Je veux dire, si un photographe de match allait voir le patron, Prouveau, en lui disant « Patron, je viens d'avoir un troisième enfant, il faudrait que j'agrandisse mon appartement », il disait « Ah oui, c'est bien terrible, la vie est difficile ». Par contre, s'il rentrait en lui disant « Patron, j'ai vu une Ferrari », il lui donnait le pognon tout de suite.
Pour acheter la Ferrari.
Ben oui. Oui.
Enfin, écoutez, c'est un Paris qui a un peu disparu, il faut dire.
Ah mais écoutez, c'est le drame, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté Paris, depuis exactement 15 jours. Ça fait 20 ans que je suis dans l'Aveyron. Hein,
oui, mais pour les vacances, les plaisanteries.
Non, vous plaisantez, quoi, je vis là-bas. Non.
Tout le temps.
Je vis là-bas depuis 20 ans, dans l'Aveyron, à Villeneuve d'Aveyron, et je viens 2-3 jours à Paris. Bon, donc j'ai absolument largué l'appartement de Paris. C'est pas Paris que j'aime plus, c'est l'esprit parisien.
Qui a un peu disparu, simplement.
Non, il n'a pas disparu, il a vraiment changé. Ah. Il y a trop de cynisme, trop de ricanement, trop de types qui râlent. Tout. Puis en plus, il y a ce mépris pour la province que je ne supporte pas. Vraiment, je ne supporte pas ça. Les ayatollahs de l'intelligentsia qui croient qu'ils sont le centre du monde, alors que c'est fini depuis 40 ans, il faudrait qu'ils voyagent, les mecs. C'est fini, tout ça. La France, c'est la province. C'est là que ça se passe, et c'est là que ça se passera, d'ailleurs.
En tout cas, votre Paris des années 60, c'est vrai qu'il est plein de fraîcheur, d'illusions, de naïveté, de joie de vivre.
Regardez, aujourd'hui, je vais pas aller chez Castel sans Jean Castel.
Non,
je vais pas aller à l'Olympia. On l'a bougé de 50 mètres, c'est pas l'Olympia. Voilà. Je suis désolé, tous les endroits que je connaissais, c'est des musées ou des endroits mythiques, comme dit l'autre.
On va avancer un tout petit peu dans le temps, avec quelqu'un, alors qui est déjà venu d'ailleurs dans cette émission, et par qui on ne peut pas ne pas passer quand on invite Jean-Marie Perrier. Mais c'est vous qui avez choisi la chanson. À quoi ça sert ?
C'est une merveille de chanson.
Comme toi, j'ai un cœur qui ne peut rien promettre, à qui l'amour fait peur, mais qui t'aime peut-être. À quoi ça sert de le cacher? À quoi ça sert d'y échapper? Je n'ai rien à t'offrir que ce que mes yeux voient. Tu ne veux pas souffrir, mais qui ne souffre pas? À quoi ça sert de l'éviter? À quoi ça sert de t'en aller? À rester dans ta tour d'ivoire, en broyant du rose ou du noir, tout seul, tout seul. C'est la vie qui veut ça. À quoi ça sert de rester seul? À quoi ça sert de vivre seul?
Françoise Hardy, dans une chanson dont elle a écrit d'ailleurs les paroles et la musique, Jean-Marie Perrier.
Mais c'était ça sa particularité, c'est que quand même c'était la seule de toute la bande du début des années 60 à écrire ses textes et souvent aussi ses musiques. Alors que les autres, au fond, chantaient les chansons américaines, des grands joueurs de rock et de blues américains, chansons traduites par des mecs qui n'étaient pas Marcel Proust. Donc, si vous voulez, c'était quand même, le niveau était un peu limité. Au fond, les choses, Françoise est la seule à l'époque qui fait tâche, et tout change au moment où Dutronc arrive. Où là, avec Lossmann, il y a des paroles.
Mais est-ce que justement, d'ailleurs, c'est pas au fond ce côté personnel et français de Françoise Hardy qui fait qu'au fond, c'est celle qui a peut-être eu le rayonnement le plus international de la bande des Yéyés, parce que les autres, ils faisaient de la chanson américaine pour les Français. Elle faisait une chanson qui n'appartenait qu'à elle, et ça plaisait aux chanteurs, aux musiciens américains ou anglais qui lui trouvaient un charme fou.
Oui,
peut-être,
oui.
Parce que ça les intéressait peut-être plus au fond que Johnny ou que le rock à la française.
Non, parce que Sylvie Vartan aussi a eu énormément de retentissement mondial, mais en fait, elle se partageait le monde. Sylvie, elle faisait plutôt le Japon. Françoise, elle faisait l'Angleterre.
Il y avait une carte à Yalta.
Mais Françoise, ce qui était merveilleux, c'est qu'effectivement, en France, elle était considérée comme une chanteuse un peu triste, alors qu'à Londres, c'était une image de mode.
Ouais.
Et c'était la française de rêve. Tout, moi, je veux dire, que ce soit les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan, ils m'ont tous demandé à la rencontrer, tous.
Alors, j'insiste quand même, vous êtes le copain d'abord et le photographe, accessoirement, de toute cette génération dite yéyé. D'ailleurs, je crois que vous n'aimez pas trop le mot.
C'est ce mot qui est pourtant inventé par Edgar Morin.
Par notre grand Edgar Morin.
À juste titre. Puisque lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ces mots-là, ils hurlent yéyé. Voilà, c'est tout.
Après, ça a été
repris par les adultes. Car on ne se rend pas compte la méchanceté des adultes et des gens dits, avant que ça s'appelle les médias, sur un môme comme Johnny, par exemple.
Oui.
Simplement un monde qui veut chanter et danser. Mais comme il représente l'américanisation du monde, à lui tout seul, au fond, c'est le début de l'américanisation.
Mais malgré tout, c'est ça aussi. On peut comprendre que la chanson française, qui avait une grande tradition encore très vivante, elle ne comprenait pas tout d'un coup cette fascination un peu béate pour tout ce qui venait d'Amérique.
Mais vous me faites marrer, on voulait vivre en cinémascope, nous.
Oui.
Bah oui, sur l'écran, il y avait James Dean en cinémascope. En France, qu'est-ce qu'on voyait? Les espèces de guimolets courbés sous la pluie.
Vous voyez André Claveau et tout ça.
Oui, bon, moi, c'était très bien, mais enfin, André Claveau ou André Dassary, c'était pas mon truc.
D'accord, mais l'américanisation du goût français, elle a quand même commencé un peu par là et ça n'a pas eu que des bons côtés.
Non, non, mais toute la jeunesse française rêvait d'Amérique. Ça, c'est absolument clair et net. Et je dois dire qu'avec Philippe Aki et Johnny et tout ça, je me sens un peu responsable d'avoir fait ça. Je ne suis pas forcément fier. Non, je ne suis pas forcément fier. Mais bon, c'était comme ça, on en rêvait. Puis jusqu'au jour où j'ai compris, je suis allé vivre en Amérique, j'ai passé 10 ans et là j'ai compris qu'en fait ce que je me suis fait avoir, parce qu'en fait c'est les films américains que j'aimais.
C'est ça, c'était pas la vraie. Alors vous nous parlez aussi de personnages essentiels, mais personnages de l'ombre, c'est toujours intéressant quand on parle de la chanson, de savoir qui fait les choses. Souvent ce sont les grands arrangeurs par exemple, ou les grands producteurs, et notamment il y a un personnage qui était même plutôt, je crois, un homme d'affaires officiellement, qui était Monsieur Wolfson.
Alors non, Wolfson n'est pas, c'est pas un homme d'affaires, c'est un... Wolfson est le seul découvreur de talent des années 60.
Oui, mais
seul.
Il se présentait comme un type plutôt assez dur en affaires.
Non, mais c'est un type qui avait un sens de la contradiction absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec les artistes, il jouait aux hommes d'affaires, et avec les hommes d'affaires, il mettait les pieds sur la table. Donc, si vous voulez,
c'est lui qui découvre un peu toute cette génération.
Il découvre Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Jacques Dutronc. On le retrouve même comme éditeur du groupe Téléphone. C'est un personnage absolument unique, mais bon, il avait un peu tendance, s'il pleuvait, il vous disait qu'il fait beau, et s'il faisait beau, il vous disait qu'il pleut, quoi. Bon, il était un peu comme ça.
Évidemment, dans cette période-là, vous êtes devenu pleinement photographe. Vous revendiquez ça comme un métier ?
Ah non, moi j'ai jamais eu de métier.
Non,
écoutez, je n'ai pas fait de musique. Donc, j'ai fait absolument tout ce qui me passait par
n'importe
la tête.
N'importe quoi, vous disiez
donc,
tout
je
à
suis,
l'heure.
Oui, je suis un dilettante. J'ai fait aussi bien du cinéma que d'écrire des livres. Maintenant, je fais de la scène. Évidemment, j'ai toujours été un peu à côté, forcément. Ouais. Je ne suis jamais dans les cases.
Par exemple, quand vous avez réussi à voir ensemble dans une même pièce les Beatles et Brigitte Bardot, vous n'avez même pas pensé à faire une photo.
Ah non, parce qu'à l'époque, je passais beaucoup plus de temps avec eux à vivre les moments qu'à faire des photos. Et quand j'ai amené Brigitte, parce que John Lennon voulait la rencontrer, c'était pas pour faire une photo, ça aurait été très vulgaire, c'était un cadeau que je lui faisais. Ouais. Bon, de toute façon, j'avais même pas l'appareil. Hein. Ouais. Non, non. Et il se trouve qu'il ne s'est rien passé entre ces gens qui étaient un peu fascinés les uns par les autres. Donc, je suis reparti avec Bricheton. Elle m'a dit dans l'ascenseur, dis donc, ils sont sympas, mais ils sont pas très marrants, tes potes.
Qu'est-ce que vous pensez des paparazzis, au fond?
Les paparazzi sont des gens qui n'ont pas la chance que j'ai eue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le rendez-vous. Ouais. Moi, toute ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient d'accord pour que je les photographie. Donc, c'est facile.
Ouais.
Eux, ils sont obligés de faire vivre leur famille en faisant des photos et ils les prennent par la force, alors que moi, on me les donne avec un sourire. Donc,
vous en parlez sans mépris.
Non. Non, non, à part deux, trois salopards,
ouais.
C'est vraiment des mecs qui doivent se débrouiller. Ouais. Donc, j'ai aucun mépris. D'ailleurs, en plus, les paparazzi ressemblent aux journaux qui les emploient et les journaux qui les emploient ressemblent aux gens qui les lisent. Donc, on est tous coupables. Hein.
Votre rencontre avec, alors maintenant, avec les grands de la pop anglaise et américaine, ça suit ce rapprochement de toute la jeunesse française, et le lancement de Salut les copains, etc. On pourrait en évoquer quelques-uns et par exemple, parce qu'on va l'écouter tout de suite.
D'abord.
Les Beatles d'abord.
Oui, les Beatles, c'est quand même formidable que le jour où je rencontre les Beatles, c'est eux qui veulent être dans le magazine. Parce que ce magazine est le seul en Europe du genre.
Bon, ah oui, ils sont demandeurs.
Mais oui, donc après ça, bon, et Rolling Stones, c'est pareil, ils n'ont même pas enregistré quand je les rencontre, donc c'est fantastique.
Et Bob Dylan?
Ah ben Bob Dylan, je l'ai rencontré en 66, au moment où il faisait cette première tournée avec un orchestre de rock électrique derrière, où il se faisait insulter tous les jours. Et c'était fou, parce que ce type, à lui tout seul, représentait l'intelligence nouvelle de la jeunesse américaine, donc mondiale, et il était entouré tout le temps d'un nuage de fumée et de crétins qui notaient tout ce qu'il disait. Je me souviens toujours, il y avait des journalistes, il disait « passez-moi le sel », les mecs notaient « passez-moi le sel ». Donc évidemment, il était un peu dépassé.
Ah, les cours, oui, les cours autour des artistes, vous en parlez drôlement aussi.
Oula.
Les filles sur les paillassons, les...
Oh là.
Les groupies, comme on disait.
Oui, oui, bien sûr.
C'est vous qui avez inventé ça, Salut les copains, les groupies en France, non?
Non, c'est surtout les... C'est... Je crois que c'est surtout un phénomène anglais, ça. D'ailleurs, Elvis Presley avait déjà des groupies. Non, non. Et Frank Sinatra aussi, d'ailleurs.
Oui,
arrêtons.
Vous avez raison.
Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit?
Bob Dylan en 1966, l'année où vous l'avez rencontré, Jean-Marie Perrier, dans Just Like a Woman. Vous adorez cette chanson. Hein.
Ah, j'adore cette chanson. Les paroles sont absolument sublimes. Il parle d'une femme qu'il a aimée et qu'il a larguée.
Vous dites c'est quelque chose de nouveau, ça, dans la chanson.
C'est-à-dire que c'est le premier qui, tout à coup, dit des choses.
Oui, c'est
parce qu'avant, disaient les chansons des chanteurs de blues noirs américains. I love you, I want you, I need you, oh please baby don't go, I'm gonna love you all night long. Et ça y est, on a fait 80% des paroles. Là, tout à coup, il y a un mec qui dit à sa mère... Derrière la porte, c'est pas grave, je suis en train de saigner, quoi. Donc, tout à coup, c'est un choc terrible. Et cette chanson-là est absolument somptueuse, parce qu'il parle à cette femme en lui disant « Un jour, quand on nous présentera comme des amis, comme ça, ne dis pas que je te connaissais. Quand je te connaissais, c'était ton monde et moi, j'étais mort de faim. » Non, c'est une sublime chanson.
Alors, il vous arrive à la même époque, hein, Jean-Marie Perrier, de passer une soirée à Londres avec John Lennon et Mick Jagger, tout le monde réuni.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, mais beaucoup plus à ne pas faire de photos, encore une fois, parce que... Je voulais vivre les moments. Quand on dit, c'est très dangereux la photographie aussi. Parce que si on fait pas son temps à photographier, bah alors on ne vit pas les moments. Hein. Ouais, un peu comme le papa qui filme son gosse en train de faire le château de sable. Vaut mieux jouer avec lui. Bon, là, c'était pareil. Et au fond, ce qui est curieux, c'est que Londres... Ah, pourtant, j'étais avec la crème, quoi. On peut pas être mieux. J'allais dans les, c'était eux, ils m'emmenaient dans les Beatles ou les Stones qui m'emmenaient dans des clubs. J'aurais dû être, je me suis toujours senti, pas à ma place à Londres. J'ai l'impression d'être dans un club dont j'ai pas la carte. Je sais pas pourquoi.
Ah bon?
Toujours.
Ah oui, il y avait quand même ce décalage.
J'ai toujours eu ça avec les Anglais.
Vous avez gardé des liens avec eux, c'était juste un moment de votre vie et de la leur. Et puis,
non, quand on se croise, ils sont très, très... Alors, mais si vous voulez, bon, c'était quand même il y a 60 ans, tout ça. Donc, par contre, il est vrai qu'il y a un an, par hasard, j'avais un ami qui faisait une exposition des photos de Linda McCartney à Montpellier. Ouais. Il me dit, viens, parce qu'il va venir. Moi, je sais pas quoi lui dire, je le connais pas. Puis je dis, tu sais, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est en 69, donc ça fait une paye. Il lui est arrivé des trucs au mec depuis. Ouais. Ça fait rien. Je suis venu, on était plein de gens, c'est pas une centaine, et il m'a vu. Il m'a fait un signe, il m'est tombé dans les bras et il m'a présenté à sa femme en disant « Tu vois, avec lui, on se marrait bien, c'était la belle... » J'étais fasciné de trouver ça formidable de sa part, parce que bon, vous rendez compte, ce type, tout ce qu'il a vécu depuis.
Vous dites aussi, c'est très joli, que à propos de Mick Jagger, que vous avez beaucoup vu à l'époque, aussi, qu'il a su utiliser ses défauts pour en faire des qualités, d'une certaine façon. Il savait pas danser, ou il essayait de danser comme James Brown, il est devenu... il n'y arrivait pas et ça a donné Mick Jagger. Il avait un physique improbable qui est devenu une forme de beauté de Mick Jagger.
Il était, pour moi, c'est la plus belle tronche de la génération avec François Hardy, hein, ça de très
loin.
Il
a utilisé ses défauts.
Oui, c'est-à-dire que sans le savoir d'ailleurs, il les a mis en avant. C'était la phrase qu'Edith Piaf m'avait dit en 52. Si vous voulez être artiste...
Ah bon, Edith Piaf, vous avez dit ça carrément.
Oui, en 52, dans les coulisses.
Vous faisiez après Edith Piaf en 52.
Parce que j'avais été voir son spectacle, j'avais 12 ans, on m'avait emmené dans les coulisses. Et très gentiment, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, je voudrais être artiste. Que tu manques d'imagination totale. Et elle me dit, si tu veux être artiste, c'est très simple. Prends tes défauts, mets-les en avant avec affirmation et ils deviendront des qualités que les autres imitent. Elle m'a résumé tout le spectacle.
Ouais.
Hein, parce que l'étymologie du spectacle, c'est ça. Hein. Télévision, cinéma, cirque, théâtre, Elephant Man. On veut voir des monstres. Et tous les grands, c'est des monstres.
Alors, Jean-Marie Perrier, d'Angleterre en Amérique, je voudrais évoquer aussi deux ou trois figures que vous avez bien connues, des figures de légende. Commençons d'abord peut-être au temps du rock'n'roll avec Chuck Berry.
Oui, mais c'est extraordinaire parce que ce type était tellement radin qu'il n'avait ni manager ni musicien. Ce qui fait que j'ai fait tout le sud des États-Unis dans sa voiture décapotable avec lui seul. On arrivait dans une ville pour le soir où il avait un spectacle. Il allait dans des bars ou à l'université, il choisissait deux, trois mecs et hop, c'était fini. Et il ne rentrait sur scène que quand on lui avait filé le pognon en cash. Hein.
En cash.
Mais il était extraordinaire.
À l'ancienne, une bête de scène par contre, après, dès que ça commençait.
Et puis c'est un des inventeurs du rock quand même, donc c'était très très impressionnant.
Et puis alors là, je mets à genoux Jean-Marie Perrier, parce que pour moi, quelqu'un qui a rencontré, qui a passé plusieurs jours, plusieurs semaines presque avec James Brown, pour moi, c'est comme si vous aviez parlé à Dieu sur Terre.
Ah, c'était Dieu, d'ailleurs.
L'homme qui a tout inventé dans la musique soul, funk, rap, aujourd'hui, tout vient de lui.
En plus, quand je l'ai rencontré, je me souviens, il était en couverture de Life Magazine qui disait « Est-ce que James Brown est le noir le plus important des États-Unis ?» Donc le mec, il était sur coussin d'air. Hein. Alors là, il savait plus où il était. Et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai rencontré chez lui, à Long Island. Il avait dans sa grande maison de Blanche-Neige. Là, on aurait
c'était dit, dans quel style,
Ah, c'était genre Blanche-Neige. Il y avait une fausse rivière avec un petit pont.
Je veux dire d'un goût un petit peu douteux.
Mais c'était très touchant, parce que c'était un mec qui était parti de rien. Ouais. Voilà, il s'achetait ses rêves, quoi. C'est un peu comme Michael Jackson, quoi.
Ouais.
Et en bas, il y avait une grande salle de sport. Et au bout de la salle, il était allongé sur une table avec un type qui lui tirait sur les cheveux avec de la graisse d'oie pendant une heure pour que ses cheveux soient raides comme ceux des Blancs. Et quand il m'a vu arriver, il m'a regardé, il m'a fait un signe de la main comme ça, mi-figue, mi-raisin. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi il pense que je suis homosexuel ou je sais pas, bon. Et en fait, je comprends qu'il veut dire t'es moitié noir, moitié blanc, toi. Je dis ouais. Et il me dit, putain, qu'est-ce que t'as vraiment de beaux cheveux. Je dis, et il m'a embarqué.
Vous avez passé plusieurs jours
trois semaines. 15 jours au lieu d'un quart d'heure. J'avais un rendez-vous d'un quart d'heure.
Mais on l'imagine mégalomane, insupportable.
Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Il l'était, ouais. Mais il avait raison. C'est James Brown, quand même.
Il y a eu des moments aussi chaleureux,
sympathiques. Très chaleureux. Vraiment très chaleureux. Je me souviens, il m'avait envoyé comme ça dans une boîte où il y avait des filles qui dansaient de 1m80. Et son secrétaire se penche vers moi et me dit « You choose ». Je pouvais prendre n'importe laquelle parce que c'est James Brown qui nous emmenait. Oh, c'était un personnage absolument extraordinaire.
Autre temps, autre mœurs.
All aboard for Night Train. Georgia, Raleigh, North Carolina, hey,
occasion de passer James Brown dans cette émission et bienvenue. Alors merci Jean-Marie Perrier. À propos d'Amérique encore, vous nous avez dit que effectivement quand vous vous êtes installé là-bas, finalement après toutes ces années entre guillemets yéyé, que vous avez commencé à faire du cinéma, de publicité, etc. C'était pas l'Amérique évidemment de vos rêves, c'était pas celle du cinéma. Vous y êtes quand même resté assez longtemps.
Dix ans. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai découvert que ce pays qui m'a quand même ouvert les bras et qui m'a permis de travailler, parce que bon, ça, il faut dire que quand on a quelque chose à faire, ils sont efficaces. Mais bon, c'est quand même aussi le pays qui a inventé la solitude. Hein. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu vraiment envie de rentrer.
C'est amusant d'ailleurs de voir là aussi dans Enfant gâté, ce livre de souvenirs, les rencontres avec les Français de sur place ou de passage. Il y a nos amis les Sœurs Labecque, un petit coup, vous rencontrez avec Max Davis quand même.
Hein. Mais grâce aux Sœurs Labecque, j'étais avec Michel Colomb. Colombier, le merveilleux musicien. J'étais chez lui parce qu'on passait pas mal de temps ensemble. Et un soir, il nous appelle à 10h en disant « Qu'est-ce que vous faites ? Venez, On est en train de dîner et elles ne nous disent pas avec qui. On arrive dans un restaurant vide et il y avait Miles Davis. Putain, c'est la première fois de ma vie que je l'ai pu dîner avec lui. Je l'avais connu de ça en 56 et là, tout à coup, je le retrouvais. Oh là là, quelle beauté. Quelle
ça
beauté.
Fait rêver quand même.
Oui, ça c'est un souvenir. Je leur en suis éternellement reconnaissant au Labec. Hein.
Et Colombier aussi, quelle figure méconnue du monde musical. Hein.
Oui, très 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 mal compris ici d'ailleurs. Ouais, parce que ouais. Bon, il a fait des musiques absolument magnifiques qui restent. Rappelez-vous, rien que le générique d'Antenne 2. Oui. Oh là là, avec les dessins là, c'était somptueux.
Le cinéma, évidemment, ensuite.
Ah bah Dutron.
Voilà, retrouvaille avec Dutron.
Non, j'ai fait du cinéma pour Dutron. Sans ça, j'aurais pas fait de cinéma.
Mais au bout du compte, Jean-Marie Perrier, parce que là, voilà, les livres de photos se succèdent. Si on y ajoute effectivement les films de publicité, en tout cas de cinéma avec Dutron, tout ça ressemble quand même à une œuvre.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Vous voulez décidément pas.
Non, c'est pas une œuvre, parce qu'une œuvre, les grands artistes sont des gens qui font qu'une seule chose de toute leur vie, ils creusent le même sillon. Moi, en fait, j'ai bien réussi mon ratage, quoi. Parce que si vous voulez, ma vie, c'était la musique, j'ai pas fait de musique, donc je peux faire n'importe quoi. Et je me suis permis le luxe extraordinaire de changer de vie, de métier, de pays, de femme, tous les 10 ans.
Alors, disons les choses autrement. C'est pas une œuvre, mais en tout cas, on peut dire que c'est aussi une marque des artistes. Vous avez comme photographe un style.
Ah, ça, j'en sais rien du tout. D'abord, c'est pas à moi de le dire. Les gens qui disent d'eux-mêmes, je suis un artiste, c'est totalement ringard pour moi. C'est aux autres à le dire. Ensuite de ça.
Il y a un style Jean-Marie Perrier.
Ma seule vraie réussite, c'est que j'ai réussi. J'ai pas réussi dans la vie, j'ai réussi ma vie. Ça, c'est vrai, parce que je suis apte au bonheur et à 76 ans, je vis dans des endroits magnifiques dans l'Aveyron et je fais exactement ce que j'ai envie de faire et je ne regarde pas la télé l'après-midi. Donc, tous les espoirs sont permis.
Mais vous allez retourner sur les planches, hein. Là, vous ne vous arrêtez pas. Donc, ce spectacle de souvenirs,
oui,
au fond,
absolument.
Que vous avez donné à la Michaudière, vous allez le faire tourner maintenant.
Partout.
Sauf à Paris.
Au fin fond de la France. Non, en France. Au fin fond de la France. Paris, non. Ils n'ont pas besoin
Paris,
de moi.
Paris, c'est fini.
Non, au fin fond de la France. Absolument. Je ferai ça pendant jusqu'à ce que je claque.
Allez, un mot encore, Jean-Marie Perrier. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs savent qui est Daffy.
Attention, là vous parlez de mon épouse.
Votre dernière épouse.
Enfin, ma chienne, une petite cocker absolument adorable que j'ai depuis 8 ans,
C'est une vraie passion, hein.
Elle m'a absolument transformé ma vie. Je ne prends plus l'avion, je ne prends pas le train parce que j'aurais peur qu'elle soit dérangée par les gens. Elle m'a entièrement, complètement, définitivement débarrassé du sexe, qui est une bénédiction. Donc voilà, je vis avec elle. Elle dort avec moi et c'est une merveille. Je savais pas et vraiment depuis que je la connais, plus je connais ma chienne, plus j'aime Brigitte Bardot.
Et faut qu'on vous fasse rencontrer Michel Houellebecq aussi, qui a une passion un peu
équivalente. Je le connais, je l'ai croisé avec Françoise.
Ah ben voilà, oui. Justement, très bien. Écoutez, quel bonheur de parler avec vous, Jean-Marie Perrier.
Je vous remercie.
On va se quitter avec les Stones.
Oui.
C'est drôle, vous n'avez pas choisi un des albums mythiques des Stones, là. Bon, c'est 73.
Cette chanson est formidable. Ouais. Cette chanson qui s'appelait en réalité Starfucker a été interdite à Londres à l'époque. Ça voulait dire baiser de star. Et ils ont appelé ça Star. Une magnifique chanson.
Et ben voilà, alors on se quitte, mais j'espère qu'on reprendra le fil de ses souvenirs un de ces jours. Merci, Jean-Marie Perrier.
Avec plaisir, merci. Yeah.
Star, les Rolling Stones avec Mick Jagger, une de ces innombrables stars immortalisées par l'objectif de mon invité Jean-Marie Perrier. Mais vous l'avez compris, Jean-Marie Perrier, c'est aussi une mine de souvenirs à découvrir. Alors, lorsqu'il va reprendre sa tournée sur les planches à partir du mois de septembre, et puis dans ce livre dont j'ai beaucoup parlé, Enfant gâté, une petite merveille de livre qui était paru aux éditions XO et qu'on peut retrouver en poche chez Pocket. C'est donc Enfant gâté de mon invité ce matin, Jean-Marie Perrier. Vous êtes sur France Musique, la seule radio où l'on peut passer en quelques secondes des Rolling Stones à la grande valse d'Isoline, ballet d'André Messager, interprété ici par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, sous la direction de Louis Forestier.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Voilà, et après l'invité, comme chaque semaine, c'est le temps du chroniqueur, un chroniqueur qui arrive vaillamment des Hautes-Alpes. Bonjour,
bonjour
Jean-Christophe Keck, avec aujourd'hui un programme d'hommage un petit peu à l'ancienne troupe de Radio Lyrique. Et oui, cette troupe qui alimente nos émissions depuis tant d'années, cher Jean-Christophe, vous avez voulu nous compléter la galerie de portraits des chanteurs que vous avez entreprise il y a voici quelques mois.
Tout à fait. Alors voici donc un nouveau portrait consacré à un des plus fameux interprètes de la troupe lyrique de la radio. Après Gaston Auré et Lina Dachary, c'est au tour d'Aimé Donia, dont la brillante carrière a été brutalement interrompue par la maladie. Aimé Donia était aussi un homme délicieux, c'est ce que m'ont rapporté avec beaucoup d'émotion ses camarades de travail, dont son épouse que j'ai rencontrée, une autre voix bien connue de la radio, la soprano Régine Vallier. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien c'est Aimé Donia lui-même qui va nous parler de sa carrière à travers une interview de Germaine Ramos, recueillie pour la semaine radiophonique à la fin des années 40. J'ai toujours eu la vocation théâtrale, nous dit-il. Je n'ai eu dès l'enfance qu'un désir, chanter. Mes parents ont été heureux de ma vocation. J'ai fait des études normalement jusqu'à 14 ans et demi et j'ai alors voulu aller à Bonn, car je suis algérien, où j'ai étudié la musique. Mon père, poursuit-il, a consenti à me laisser partir malgré ma jeunesse et dès lors j'ai dû faire nombre de métiers pour vivre. Ma chance fut de trouver à Bonn un grand artiste, M. Bousquet, directeur du conservatoire, qui m'a donné le feu sacré, qui ne demandait qu'à s'allumer en moi. Il m'a donné gratuitement des leçons d'ailleurs, comment aurais-je pu les payer? Je n'avais même pas de quoi payer une chambre, je dormais dans le bureau où je travaillais. À 18 ans, toujours aussi pauvre, je m'engageais dans la musique militaire pour pouvoir suivre les cours du conservatoire de Montpellier. À 20 ans, j'étais premier prix de basson. J'ai été bassoniste pour gagner ma vie, j'ai travaillé ma voix plus tard. Mon service fini, je suis entré à l'orchestre de la radio de Montpellier et j'y chantais quand éclata la guerre. J'ai connu les épreuves de tous les jeunes artistes d'alors. En captivité, je me suis évadé 3 fois, la 3e fois fut la bonne. Après la libération, je vins à Paris, je passais l'audition pour la radio et c'est alors que ma vraie carrière a commencé. Eh bien, écoutons sans plus tarder un document très rare, la première apparition offenbachienne d'Emedonia à la radio dans le club d'essai du 7 novembre 1947. Il y tient le rôle de Bel Azor dans Le financier et le savetier d'Offenbach, bien sûr.
Frappe sur ton enseigne, étourdis le quartier savetier. Celui qui te dédaigne peut-être aura demain ton destin. Tu connais cet air-là?
Je connais cet air-là.
Tu l'as chanté déjà?
Je l'ai chanté déjà.
Tu l'as chanté tra-la-la-la.
Je l'ai chanté
tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Frappe sur ton enseigne, étourdis le quartier savetier. Celui qui te dédaigne peut-être aura demain un semblable destin, un semblable destin. De la chaussure humaine, tu répares la frangue et l'huron. Travaille la semaine, dimanche tu boiras, chanteras. Oui, le bonheur est là.
Oui, le bonheur est là.
Redisons cet air-là.
Redisons cet air-là.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la.
Tra-la-la-la, tra-la-la-la.
Étourdis le quartier, ça veut dire celui qui te dédaigne peut-être aura demain un semblable destin, un semblable destin.
Alors Jean-Christophe, là je vous dis bravo parce que c'est un document merveilleux avec, alors je précise quand même, donc Le financier, le savetier d'Offenbach, petit opéra bouffant d'un acte,
hein, oui.
Avec accompagnement à 2 pianos, Robert Véron-Lacroix et Jean-Michel Damaz.
Rien que ça.
Rien que ça. Et très joli duo donc de Raymond Amade et Aimé Donia dont vous nous parlez ce matin. Petite précision parce que comme on est à la radio, moi j'ai le texte sous les yeux, donc je vois que vous avez parlé du fait qu'il était né en Algérie et donc qu'il avait étudié à Bonn. C'est oui. Bonn, B-O,
voilà,
accent
c'est pas
complexe,
le festival
N-E, en Algérie, ça n'a rien à voir avec le Bonn de Bourgogne.
Avec le festival de musique baroque d'Anne Blanchard, que je salue au passage. Alors, grâce à l'aide précieuse de notre ami Jacques Derouet, la mémoire vivante des émissions lyriques à la radio, ben, nous découvrons que le nom d'Emedonia apparaît 711 fois, rediffusion comprise, dans les programmes radiophoniques. Et je parle seulement d'ouvrages lyriques diffusés entre le 2 janvier 1946, où il fait ses débuts dans L'Acmé, dans un petit rôle bien sûr, et le 19 mars 1972, pour ses adieux au micro, dans Le Serpent à plumes de Léo Delibes. Mon répertoire est très vaste, nous dit encore Emedonia. Je joue tous les baritons d'opérette classique, les opérettes viennoises naturellement. Je viens de jouer Rêve de valse à Mogador durant 2 semaines. En fait, on m'entend beaucoup à la radio. Dans les genres les plus divers, je suis un des piliers de la radio. J'y chante les œuvres nouvelles, au club d'essai en particulier. En 1947, j'y ai créé 4 opéras comiques d'André Jolivet, de Robert Manuel, d'Henri Barrault, c'est pas tout à fait le même. J'y chante aussi des opérettes légères comme Dédé et aussi des chansons. Je vous assure que je ne trouve pas que chanter une chanson soit un art inférieur. Il faut bien choisir ses chansons, c'est l'essentiel. Ce métier de chanteur attaché à la radio exige des qualités spéciales. Il exige d'abord d'être un très bon musicien. Il faut pouvoir chanter n'importe quoi à vue. On est forcé d'apprendre sans cesse du nouveau. Oh, ce n'est pas un métier de paresseux, je vous jure. Cela exige un travail continuel. Il faut parfois mettre une œuvre au point en 3 jours.
Ah, c'est charmant, c'est excellent. Ah, c'est charmant, c'est excellent. À chanter, nul ne vous surpasse.
Et maintenant c'est le moment, et maintenant c'est le moment. Parlez de grâce.
Mangez de grâce.
Parlez donc.
Mangez donc.
Parlez donc.
Mangez donc.
Parlez, 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 parlez.
Mangez, mangez.
Parlez.
Mangez, mangez.
Parlez.
Mangez, mangez.
À quel repas sans égal, quel hôte libéral, de l'accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau bal, au plus doux madrigal, le plaisir cordial de Paris régal. Cette vaste terrine où trônait l'aubergine et ce piment moulu, cela passe d'ondulant, d'une frétillante et le vin d'alicant. Et ce plat de nougat, tout à fort bonne nuit, les plus on l'examine, enfin votre cuisine est en tout point divine. À quel repas sans égal, quel hôte libéral, de l'accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau bal, au plus doux madrigal, le plaisir cordial de Paris régal. Mais quand on quitte la table, est-il donc un plaisir plus grand que de converser un moment? Non, rien n'est plus agréable, et comme disait mon aïeul, ce n'est permis qu'à l'homme seul. Car sachez que la parole est en somme ton capital, nous distinguant de l'animal. Ceci n'a rien de frivole, et pour un esprit positif, mon calcul est démonstratif. Par effort de mémoire, on voit des perroquets dans leur naïf caquet vous demander à voir, ou du rôle de mouton, toujours du même ton. J'entendis même un phoque articuler, papa, mais ces accidents là n'ont rien que d'équivoque. Et sans dissimuler, l'homme seul sait parler, comment tout bien juger, l'homme seul sait manger. À quel repas sans égal, quel hôte libéral d'un accueil amical, voilà l'idéal. Je préfère au plus beau mal, au plus doux madrigal, le plaisir cordial me paraît régal. À quel repas sans égal, quel hôte libéral, quel hôte libéral. Voyez d'un cœur royal, élan sentimental, vraiment un tel régal. Pour moi, n'a rien d'égal. Ce vin de Portugal brillant dans le cristal se fait un peu frugal où le règne animal se mêle au végétal. Dans l'accueil amical, c'est vraiment l'idéal. C'est le pur idéal.
Les bavards d'Offenbach, page magnifique, là encore, étonnante de virtuosité,
mais
de
oui.
Débit.
Où respire-t-il?
Où respire-t-il? Donc c'était Aimé Donia dans le rôle de Roland, et c'est l'enregistrement discographique paru chez Erato sous la direction de Marcel Courreau en 1967.
Ce qui est génial aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas de trucage, parce que on sait que l'art du brésilien, que ce soit par Dario Moreno ou par Jean-Christophe Benoît, a été enregistré morceau par morceau et collé.
Même là, Jean-Christophe Benoît.
Ah oui, oui. Mais là, c'est d'une traite. Alors nous venons d'entendre l'artiste âgé de 49 ans au sommet de sa carrière, et Médonia a donné aussi beaucoup de récitals, et pourtant c'était une véritable victime du trac. Dans les enregistrements télévision qu'il a fait pour Jean Nohain, son malaise est horriblement perceptible. D'ailleurs, voilà ce qu'il nous dit en parlant de la scène. « J'aime aussi la scène, je rêve de créer une belle opérette à Paris, le public me manque, j'adore les planches et j'adore être costumé. De plus, sans costume, j'ai un trac terrible. Costumé, c'est étrange, je me sens beaucoup plus sûr de moi. » En tout cas, pas le moindre trac ne transparaît derrière son micro de la radio, où Aimé Donia était comme un poisson dans l'eau. Écoutons un des sommets de son art avec ses couplets du Facteur Rural, enregistrés peu de temps avant qu'il ne soit hospitalisé.
Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. À Paris, mes brillants confrères font leurs courses en omnibus. Mais ici, dans nos humbles sphères, nous les faisons comme pédibus. Et c'est une grave question de savoir si pour marcher beaucoup, il vaut mieux avoir de grandes jambes que de petites. Au premier abord, il semble qu'il vaut mieux en avoir de grandes, parce qu'avec de grandes jambes, on fait de grandes enjambées. Mais avec de petites jambes, on fait de petites enjambées, mais on en fait plus. Alors, ça revient à peu près au même. Ça, du reste, ce sont des questions pour les savants. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis pas savant. Je suis le facteur rural. Un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. Avec les lettres, on s'en tire, mais ce qui me rend presque fou, mais ce que je m'en vais vous le dire, ce sont les journaux à un sou. Il y en a de ces journaux, il y en a. Tous les jours, on en invente de nouveaux, et avec des titres. Ainsi, dernièrement, j'ai porté une jeune dame un prospectus ainsi conçu. Nous venons de fonder un nouveau journal, il s'appelle Le Fouet, vous le recevrez tous les deux jours. La jeune dame a rougi, le mari qui était là s'est fâché contre moi, mais il a eu tort. Est-ce que cela me regardait, moi? On me dit de porter cela, je le porte, je suis pas journaliste, moi. Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. il faut se donner du mal quand on est facteur rural. Par bonheur, on nous vient en aide. Au facteur, il est question de donner un vélocipède. Gloire, gloire à l'administration. Oui, 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 des vélocipèdes. Et cela, on peut dire que c'est une idée heureuse. Il n'y a rien de plus distingué pour le moment. Et puis, c'est très commode. Par exemple, ce qui est difficile, c'est de monter dessus. Mais une fois monté dessus, ce qui est difficile, c'est d'en descendre. Et puis, une fois lancé, ces bêtes-là, il paraît que ça ne s'arrête jamais. Ainsi, dernièrement, un caissier de chez nous est parti sur un vélocipède. Eh bien, il n'a pas pu s'arrêter qu'à New York. Quand je dis qu'il s'est arrêté, je me trompe, on l'a arrêté. C'est du moins ce que l'on m'a raconté. Moi, je suis pas allé y voir. Hein. Tout ça ne me regarde pas, moi. Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural.
Le Château à Toto, un de ces grands opéras bouffes d'Offenbach qu'on aurait oublié si vous n'étiez pas là, cher Jean-Christophe Keck. Ici donc, cet air chanté toujours par Emedonia dont vous nous parlez ce matin, c'était en 1971.
Emedonia qui a connu une vie des plus riches et des plus mouvementées. Avant d'être engagé à la radio, il fut tantôt agent d'assurance et tantôt équilibriste dans un cirque. Outre le basson et le hautbois dont il jouait fort bien, il rédigea différentes méthodes de chant et de solfège et réalisa même des instrumentations de chansons anciennes. Son évasion d'Allemagne en 1941 fut rocambolesque et il échappa de très peu au camp de concentration. Emedonia avait un don particulier pour l'apprentissage et la pratique des langues étrangères, ainsi que pour les prononciations d'accents les plus diverses, ce qui lui permit notamment de chanter avec aisance en allemand, en anglais, en russe, en italien, en espagnol, en provençal et même en arabe. Un enregistrement du rôle de Souchong du Pays du Sourire, avec accent chinois et d'ailleurs anthologique. Ah oui, les dialogues, c'est à mourir de rire. Alors, il travailla pour de nombreuses maisons de disques, chez qui il enregistra plus de 160 microsillons, ce qui est quand même énorme. Lorsqu'en 1972 furent créés les tout premiers conservatoires régionaux de musique, le premier concours de professeurs de chant destiné à les pourvoir n'admit qu'un seul élu parmi beaucoup de candidats, Emedonia, qui choisit d'enseigner à Versailles. Il ne put jamais rejoindre ce poste dont il était très fier, car la maladie puis la mort mirent fin prématurément à son existence en 1973, à l'âge de 54 ans. Alors pour conclure ce résumé éclair d'une carrière aussi riche, écoutons un bref extrait du tout dernier enregistrement d'Offenbach qu'il nous a laissé, Mesdames de la Halle.
Le noble éclat du diadème n'y parle point de sa splendeur. Fla, 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 fla. Les attraits de celle qu'on aime, c'est le séjour de la candeur. Fla, 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 fla. On y trouve des choux, des carottes, de frais à part, des oignons en mode. C'est le paradis de ma mère et je viens offrir mon bouquet. Fla, 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 fla. Vive les dames de la Halle, vive, vive les dames de la Halle.
Vive ces beautés sans égal, vive les dames de la Halle, vive, vive les dames de la Halle.
Emedonia en 1971 dans Mesdames de la Halle, toujours d'Offenbach. Merci Jean-Christophe.
Merci Benoît.
Pour ce portrait d'Emedonia. Peut-être que on poursuivra dans
bien
quelques
sûr.
Semaines, par exemple, avec notre chère et regrettée Claudine Collard, grande chanteuse
très,
de
très
la troupe
dame,
qui nous a quittés.
Bien sûr.
Voici
oui.
peu de temps.
Tout à fait, il y a beaucoup de choses à entendre aussi.
À bientôt Jean-Christophe.
À bientôt Keck. Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert, avec aujourd'hui à la technique Cécile Gissot, avec Emmanuel Rose, Bernard Kajmarek et réalisation Christine Amadou. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. J'accueillerai un des grands auteurs de la chanson française, monsieur Claude Lemel, qui viendra nous parler de ses amis Dassin, Sardou, Mouskouri, Beko et beaucoup d'autres.